Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans ce monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une conversion intérieure. C'est par ces mots que commence le livre que nous allons commencer de parcourir ensemble ce matin, des mots du pape François que l'on trouve au début d'un livre écrit sur l'encyclique Laudato Si, un livre en forme de retraite. Retraite que nous allons essayer de vous faire vivre au long de cette année radiophonique, une retraite pour nous aider à entrer dans l'année Laudato Si, déclarée par le pape François le 24 mai dernier, afin, au dire de ce dernier, de participer rien moins qu'à la tentative de renouveler l'humanité. L'appel de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, première émission donc d'une série annuelle. Vous savez, on a des grandes séries, cette année on va dire ça sera la grande série. Et autour du plateau, pour nous en parler, Jérôme Gué, vous êtes religieux jésuite et co-auteur donc d'un livre intitulé « Parcours pour une conversion écologique » paru aux éditions Vie chrétienne et fidélité. Bonjour.
Bonjour.
Bénédicte Lamoureux, vous êtes religieuse Xavier et vous êtes directrice des Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest. Bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous bien du micro. Et François Dromard, vous êtes paysan et éleveur en Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent. Alors Jérôme Gué et Bénédicte Lamoureux, vous allez nous tenir la main au long de cette année pour nous aider à reparcourir l'encyclique. Vous ferez partie presque des chroniqueurs de cette émission. Et François Dromard, vous êtes notre témoin du jour. L'encyclique Laudato Si aussi, on a fait une série d'émissions. C'était il y a 2 ans, on a pris le temps de lire cette encyclique, de la parcourir avec beaucoup de gens fort savants. Mais donc le pape François a déclaré une année Laudato Si. Ça a commencé donc le 24 mai dernier, et ça se finira le 24 mai 2021. Ça tombe bien, on avait un jésuite qui, dans le coin, avait écrit ce livre « Parcours spirituel pour une conversion écologique » et on va donc le parcourir ensemble. On va peut-être commencer par une question d'actualité. Alors, c'est facile quand on tape, j'essaie de pas toujours aller sur Google, mais quand on tape Google Actu crise écologique, on trouve quand même très facilement des articles. Et là, donc, c'est Nicolas Hulot, qui au début octobre, à l'occasion d'une rencontre, d'une conférence pour la paix, du Forum mondial pour la paix donc en Normandie, a donné une interview à France Bleu. On imagine son propos. J'ai juste relevé une partie de l'interview que je vous ai fait suivre, Jérôme Gué. Aujourd'hui déjà, ce sont des dizaines de millions de personnes qui doivent fuir leur territoire parce qu'il y a une submersion, donc montée des eaux, ou parce qu'il y a des incendies, soit tout simplement parce que la désertification empêche de cultiver des sols. Pour se remettre quand même un peu les choses en place, c'est une tragédie, on peut utiliser ce mot?
Oui, c'est une tragédie. Évidemment, dans nos pays, on ne la sent pas encore beaucoup, encore qu'on voit bien qu'il y a des événements climatiques qui sont de plus en plus violents, et que même dans notre pays, des personnes sont atteintes, malheureusement. Mais dans d'autres pays, les conséquences sont beaucoup plus importantes. Je pense par exemple au Bangladesh où c'est des centaines de milliers de paysans qui perdent leurs terres à cause de la montée des eaux. Voilà.
Donc, pour bien comprendre, parce que le niveau du sol
est à
niveau de la mer et du coup ça envahit une partie du pays.
Voilà, le niveau de la mer monte, évidemment c'est pas encore énorme, donc on a l'impression qu'on est un peu étonné que ça fasse des effets, mais ça fait des réels effets puisque c'est une région côtière qui est très très basse, juste au niveau de la mer, et qu'il y a l'écoulement des eaux qui viennent du Brahmapoutre et du Gange, et que cet écoulement se fait moins bien, du coup il y a inondation et salinisation des terres. Du coup, les paysans perdent leurs terres et se retrouvent dans les bidonvilles, dans les grandes villes du pays.
Voilà, alors il y avait des propos dans cette interview de Nicolas Hulot, preuve que, et on verra au long du parcours de votre livre, de ce parcours et de l'encyclique Laudato Si, qu'on aurait pu trouver presque dans la bouche du pape François, la crise écologique, donc c'est un enjeu de dignité humaine et de justice sociale, dit-il, et en jeu, les premières victimes, ce sont toujours les plus vulnérables. Alors, Laudato Si, c'est un appel, puisque c'est le sous-titre de votre livre, l'appel de Laudato Si. Quel est cet appel, dans le fond, qui nous est adressé à chacun, Jérôme Gué?
C'est un appel à entrer dans une conversion qui n'est pas superficielle. Voilà. C'est une conversion qui nous demande de changer complètement notre manière de penser, notre manière de nous situer par rapport au réel, par rapport à la nature, et pour les croyants, par rapport à la création et par rapport à Dieu. Voilà, Dieu créateur. Et de nous resituer complètement autrement dans la création. Et du coup, c'est un appel qui va chercher dans une intériorité, qui va chercher au plus profond de nous, dans notre manière de penser comment on se situe dans le monde et dans la vie. Donc ce n'est pas rien. Voilà.
Donc à vous entendre, ça n'est pas seulement trier ses déchets, c'est aussi donc, une transformation du regard sur le monde, voire même une mystique.
Oui, alors trier ses déchets, c'est le résultat à la fin. Bien sûr, on peut le prendre comme étant un acte que je vais essayer de poser, mais en fait, si on veut rentrer dans une conversion, une réelle conversion écologique, le tri des déchets sera le résultat d'une conversion intérieure, d'une autre manière de nous rapporter au monde.
Alors, on a choisi quelques passages dans l'encyclique Laudato Si pour cette première émission, afin de se remettre en tête pour ceux qui l'auraient déjà lu ou pour les autres, afin de découvrir le propos de cette encyclique. Dans le paragraphe 9, il est parlé donc de Bartholomée. Je vous laisserai nous redire qui il est. Donc, ce patriarche qui dit la chose suivante, entre autres, « Nous, chrétiens, nous sommes appelés à accepter le monde comme sacrement de communion, et de passer de la consommation au sacrifice, de l'avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui signifie apprendre à donner. » Qu'est-ce que vous retenez de ce passage de Bartholomée? Est-ce que vous pouvez nous redire qui est Bartholomée?
Bartholomée est un haut dignitaire de l'Église orthodoxe, et qui, effectivement, a vraiment fait des déclarations qui vont très loin dans le sens écologique et bien avant Laudato Si. Donc c'est pour ça que le pape François s'en est inspiré. Ce que je retiens, ce que je trouve très beau, c'est qu'il il nous invite à ce que la démarche écologique dans laquelle on pourrait rentrer soit une démarche d'amour, soit vraiment habitée par l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour de ce qui nous est donné par Dieu. Voilà.
Il y a d'ailleurs des très beaux passages. Alors ça, on sent presque que c'est les orthodoxes. Il y a parfois de la poésie. Hein. « C'est notre humble conviction que le divin et l'humain se rencontrent, même dans les plus petits détails du vêtement sans couture de la création, jusque dans l'infime grain de poussière de notre planète. » C'est donc lui qui avait fait ce discours. C'était un discours au sommet de Halki en juin 2012. Un petit peu plus loin, si on avance, c'est le paragraphe 64. Évidemment, chacun de nous est interpellé dans cette encyclique. En l'occurrence, ça s'adresse donc aux chrétiens. Les convictions de la foi offrent aux chrétiens et aussi à d'autres croyants de grandes motivations pour la protection de la nature. Et le pape François, dans ce passage, invite, si je ne me trompe pas, à avoir recours à... il dit que c'est un devoir à l'égard de la nature. Chaque chrétien a un devoir à l'égard de la nature.
Oui, dans le sens où la création nous est confiée par Dieu, et du coup, on a un devoir de l'entretenir et de prolonger son œuvre de création, évidemment dans le respect de ce qu'il a donné. Donc on a un réel devoir de respecter ce qui nous a été donné et d'une certaine manière de prolonger cette œuvre de création.
Alors je retrouve le passage, j'ai pas cité le bon. « Si le seul fait d'être humain pousse les personnes à prendre soin de l'environnement dont elles font partie, les chrétiens notamment savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du créateur font partie intégrante de leur foi. » Il y a un autre passage qui parle de la mystique écologique. Je sais que vous y tenez, peut-être pas forcément à la mystique, mais au fait que, et vous l'avez dit au début de cette émission, cette transformation est d'abord un appel à une transformation spirituelle. C'était aussi le sens de la citation un peu compliquée que j'ai donnée au début de l'émission. Qu'est-ce qu'il entend, le pape François, par cette mystique? Qu'est-ce que ça veut dire, cette mystique, Jérôme Gay?
Je pense que une autre manière de nous rapporter à la nature, c'est une autre manière de nous rapporter à Dieu. Voilà. Ça concerne notre relation à Dieu. C'est de nous situer à la bonne place vis-à-vis de Dieu et de nous situer comme étant une créature de Dieu et au milieu des autres créatures. Donc c'est toute une manière de concevoir notre relation à Dieu qui nous est proposée et dans laquelle nous avons à rentrer. Bien sûr, ça nous habite déjà, mais là, la crise écologique, finalement, nous pousse à aller beaucoup plus loin et à vraiment à retravailler cet aspect-là dans notre foi chrétienne et dans notre manière de prier, dans notre manière de vivre à partir de notre foi chrétienne.
Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, si j'avais bien compris, si j'ai retenu en tout cas une chose de la grande série qu'on avait fait sur Laudato Si, c'est que le pape François, dans cette encyclique, entérine quelque part quelque chose qui existait dans la spiritualité franciscaine, qui est qu'on rencontre Dieu, pas seulement, on va dire, dans la vie de prière, dans la vie sacramentale, dans les Écritures, dans l'autre, mais on rencontre Dieu dans la création.
Alors,
et qu'il y avait une vraie nouveauté de ce côté-là dans cette encyclique.
Alors, nouveauté, je ne sais pas, puisqu'on a différentes traditions, différents courants spirituels dans l'Église, mais certainement de remettre en lumière et de profiter de ces courants de manière beaucoup plus importante parce qu'ils sont riches dans la situation d'aujourd'hui. De sortir... En fait, notre culture nous a poussés dans un sens qui est un sens très utilitariste vis-à-vis de la nature, de la création, en s'appuyant d'ailleurs sur une interprétation que le pape remet un petit peu en cause, qui est quand on nous dit dominer la nature, dominer les éléments de la nature, on l'a pris comme presque comme avec un accent de prédation. Or, c'est tout à fait autre chose, évidemment, qu'il faut entendre. Donc, on a à sortir d'une sorte de formatage dans lequel on est tombé par notre culture, par notre société, le rapport à la technique, pour retrouver cette poésie qu'on entend, par exemple, dans la tradition franciscaine.
Voilà, un autre passage, après on arrêtera avec là, c'est le paragraphe 218, où il donne Saint François comme modèle. Laudato si, c'est donc loué sois-tu Seigneur, c'est une expression que l'on le prête donc à Saint François d'Assise. Cela implique aussi de reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices, négligences, de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement. Et il ajoute, les évêques australiens ont su exprimer leur conversion en termes de réconciliation avec la création. Alors donc vous avez écrit ce livre avec un autre jésuite qui s'appelle Éric Charmetan. On l'avait parcouru à l'occasion d'une émission, mais tout le monde n'écoute pas tous les jours. Vous pouvez nous dire un petit peu comment il est né? On vous a un peu quelque part missionné aussi, si j'ai bien compris, dans votre ordre pour essayer de concevoir un parcours spirituel, donc une forme de retraite autour de cette encyclique.
Oui, tout à fait. Donc moi je suis responsable pour les jésuites de la transition écologique pour les jésuites en France et en Belgique. Et dans cette responsabilité, on écrit chaque mois une fiche qui nous invite à changer nos modes de vie. Puis un jour, on s'est dit, on va écrire une fiche pour essayer de faire retraite dans l'été, qui nous a fait entrer dans une conversion écologique. Puis ça a été remarqué, on nous a demandé d'animer une retraite pour les jésuites un été sur ce chemin de conversion écologique à partir des exercices spirituels. Et puis, comme ça a été apprécié, du coup, on s'est dit, on va en faire profiter un plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, à la fois pour ceux qui voudraient faire une retraite de 8 jours ou pour ceux qui voudraient, tout au long de l'année, avancer dans un chemin de conversion ou pour d'autres aussi qui voudraient prendre quelques aspects de spiritualité liés à l'écologie.
Alors, on va les prendre par la main. Le premier jour, donc c'est la mini-retraite qu'on propose à l'occasion de cette émission, c'est « S'émerveiller de la nature ». Alors, vous invitez à prendre un bain de nature. En l'occurrence, les auditeurs sont probablement soit chez eux, soit au volant, donc qu'ils restent prudents. Voilà, et d'avoir une grande attention au sens. Donc, on plonge tout de suite. C'est tout de suite assez concret, en tout cas ce jour-là, qu'on va essayer de vivre. Et alors, l'essence, vous nous dites, c'est bien, moi j'ai appris quelque chose. D'essence, on en a 9.
Oui, alors il y a les 5 sens qu'on...
Il n'y a que les jésuites pour arriver à trouver 4 sens en plus. Hein,
alors, on en a 5, on connaît les 5 habituels, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Bon, voilà. Donc déjà, de rentrer dans la conscience de ces sens, ben, c'est déjà un exercice qui est intéressant. Et après, oui, il y en a 4 autres. Alors, il y a le sens de la douleur, hein, de la perception de la chaleur ou du froid, l'équilibre et le sens des mouvements du corps. Voilà. Ce sont des sens qu'on a moins l'habitude d'évoquer, mais qui sont réels. Ouais.
Alors, il y a aussi un petit encadré qui parle du développement de ses sens. Ça, c'est assez fascinant. Vous dites que le toucher, l'émergence du toucher, c'est à 7 semaines de grossesse. L'ouïe, c'est 8 semaines. La vue, 20 semaines. L'équilibre, justement, ce sens interne, un de ses sens internes, c'est 8 semaines. Donc, les petits d'hommes, très tôt, on va dire, ont cette, on va dire cette, voilà, cette conscience aiguë de ce qui les environne. Qu'est-ce que vous nous invitez à vivre ? Alors, avant de, qu'on se plonge dans les exercices, c'est ce qu'on fera. Bénédicte Lamoureux nous prendra par la main en deuxième partie d'émission. Voilà, il s'agit donc de déployer vos sens, de renouveler votre manière d'être en relation avec la nature. Quelle est un peu la teneur de votre propos introductif, Jérôme Gay, dans ce chapitre ?
Ben, en fait, quand je dis de prendre un bain de nature, c'est prendre un bain de nature. C'est-à-dire, je me mets dans la nature et j'observe. Voilà. Et en fait, on fait ça, moi je le fais bien, très régulièrement, et puis chaque année quand je fais une retraite, je le fais dans la montagne pendant 8 jours, en pleine nature. Bon, les premières heures, ça fait un peu bizarre. Voilà.
On s'ennuie.
Bah, on est là et je fais quoi, c'est quoi là,
chercher bon, un alors, bouquin quoi.
Oui, c'est voilà, c'est ça. Bon, la nature c'est bien, mais enfin bon, c'est quoi enfin, et voilà, ok, on a vu. Voilà. Donc c'est un peu surprenant et c'est un peu difficile à faire. Et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, eh bien, on n'est pas éveillé. On est en train de chercher l'utile, d'apprendre des choses, de courir, de faire des choses, d'appeler quelqu'un, de, voilà. Et tout d'un coup, se retrouver à rien faire, et là, dans la nature. Et donc, en ayant cette attention au sens, je vais développer ma capacité d'observation et d'être, finalement, à l'écoute de ce qui se passe autour de moi et d'être présent à ce qui se passe autour de moi.
Mais alors c'est quoi ? C'est comme une forme d'exercice de pleine conscience pour, entre guillemets, se faire du bien. À vous lire, c'est plus que ça. En fait, il s'agit de renouveler votre manière d'être en relation avec la nature.
Oui. Alors bien sûr, ça fait du bien. Ça, c'est évident et c'est très. Je trouve que la pleine conscience est extrêmement intéressante. Mais là, il y a une optique beaucoup plus qui va plus loin, qui est spirituelle, c'est-à-dire. Je vais être capable d'être attentif et d'observer, de rentrer en relation avec tous ces éléments de la nature qui sont autour de moi. Moi, j'ai le souvenir, je fais cette méditation dans la nature, je ferme les yeux, tout ça, j'ouvre les yeux, je vois un écureuil devant moi qui est en train de faire son affaire. Et je l'observe pendant 15 minutes. C'est extraordinaire. C'est une expérience extraordinaire. Mais ça, il faut s'arrêter. Il faut avoir pris cette démarche d'observer, d'être à l'écoute, et pas de se dire, bon, ben, c'est bon, je l'ai vu 2 minutes, et c'est bon, on va passer à autre chose. Quoi. Donc d'être dans cette attitude profonde de contemplation.
Alors les fruits, on en parlera. François Dromard est là pour ça, même si on sent que vous auriez pu le faire vous aussi. Vous pouvez dire un mot du jeûne, puisque dans ce jour, vous invitez à vivre le jeûne. Alors vous proposez des jeûnes intermittents, c'est-à-dire on saute juste le repas du matin, ou alors éventuellement un de plus. Bref, ça ne met pas en danger. On peut même faire du sport à vous entendre. Mais quel est le but en fait de cette privation ?
En fait, l'acte de manger est un des premiers actes fondamentaux de consommation, et donc de rapport aux objets et de rapport à la nature. Et donc, de se mettre à un moment donné dans une abstinence nous permet de sentir qu'est-ce que ça remue en nous, de remettre sur le chantier notre manière de consommer et de nous rapporter à la nature. Le fait de manger est vraiment au cœur de notre démarche de consommation qui est en lien avec notre consommation sur plein d'autres choses, des objets, des...
Voilà, vous rappelez entre autres, on va dire, la maladie de la malbouffe, hein, c'est qui a entraîné une épidémie d'obésité dans les pays occidentaux, peut-être moins en France que... Outre-Atlantique, aux États-Unis, quoique c'est pas forcément. Bref, ça a tendance à évoluer. Parcours spirituel pour une conversion écologique, l'appel de Laudato Si, ce livre paru donc aux éditions Vie chrétienne et Fidélité. On fait une pause musicale et puis Bénédicte Lamoureux va nous prendre par la main pour essayer de vivre cet exercice.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'appel de Laudato Si, c'est pour rappel, l'émission de le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, première émission donc d'une série annuelle. On va pas reparcourir l'encyclique, mais donc ce livre, Parcours spirituel pour une conversion écologique, c'est donc à vivre seul, en groupe ou à l'occasion de retraites. C'est un livre paru donc aux éditions Vie chrétienne et Fidélité. Pour nous accompagner pour cette première émission, Jérôme Gué, qui est jésuite et co-auteur de cet ouvrage, Bénédicte Lamoureux, Xavier, directrice des Coteaux Païs, c'est Centre Jésus dans le Sud-Ouest, et François Dromard, qui est paysan et éleveur en Haute-Garonne. Alors, vous, Bénédicte, vous avez la charge de nous aider à le vivre. Alors, certainement que ça appelle, on va dire, un deuxième exercice, peut-être en écoutant l'émission en podcast ou après en achetant le livre, en essayant de le vivre, parce que tout le monde ne pourra pas tout d'un coup là, prendre un bain de nature. Allez, question piège. Vous aussi, ça vous arrive de passer du temps dans la nature à regarder les écureuils, Bénédicte ?
Oui, tout à fait.
Êtes-vous un témoin crédible ?
Je suis un témoin crédible. Moi, j'ai grandi dans un village d'une centaine d'habitants et je sais que pour me refaire, je dois aller marcher. Et j'ai un critère très précis. Quand j'ai eu trop d'heures de bureau, de train, de travail, je marche. Et quand je sens que je suis capable de réécouter les oiseaux, de revoir les fleurs, parce que j'ai besoin de décanter tout ce que de déposer quelque part en marchant et dans la nature, tout ce qui me préoccupe, quand je suis capable de réentendre, de revoir, de ressentir dans mon corps le vent, les oiseaux, d'être là, tout simplement là. Et ben là, je sais que je peux rentrer, je retrouve la paix, je retrouve une unité plus profonde.
Et vous devez en faire des kilomètres, parce que quand on est directrice des Coteaux Païs, on doit avoir un petit peu de boulot quand même.
Ça dépend des années.
Alors, ces exercices, donc, si j'ai bien compris, dans cette première journée donc, de cette retraite que l'on propose, après ce propos introductif qui serait donné, donc soit là en l'occurrence par Jérôme Gué pour nous, mais ça peut être par quelqu'un d'autre, après on passe à la pratique. Alors ça, cette manière, on va dire, de faire atterrir dans sa vie par des exercices, ou par la contemplation des Écritures ou autres textes, c'est, on va dire, une méthodologie proprement jésuite. Donc, il faut faire un petit détour dans cette première mission pour redire ce que sont les exercices spirituels. Quelle est leur logique, Bénédicte Lamoureux ?
Alors, les exercices, justement, ça dit bien son nom, déjà. Les exercices, ça fait très scolaire, peut-être, dans un premier temps. Mais Ignace dit très clairement, au départ, de même que
Saint Ignace de Loyola.
Saint Ignace de Loyola, le patron des jésuites, si on peut dire comme ça, le saint patron des jésuites, et du centre spirituel où je travaille, c'est d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement et mentalement, mais c'est aussi, par exemple, faire des exercices comme se promener, marcher, courir, sont des exercices corporels, il dit. Et bien de même, les exercices spirituels sont toute manière de préparer et de disposer son âme, son cœur on pourrait dire, hein, pour écarter de soi tous les attachements désordonnés. C'est-à-dire pour retrouver une droiture intérieure et un sens profond de la présence de Dieu dans son cœur.
Donc Ignace de Loyola, déjà à son époque, laissait entendre qu'il fallait aussi tenir compte du corps pour ce mouvement, on va dire, de recherche de Dieu.
Il n'y a pas d'expérience spirituelle sans le corps. Sans l'ici et le maintenant. Sinon, ce serait évanescent et désincarné. Or, nous avons une religion incarnée. Il n'y a pas d'expérience spirituelle sans l'inscription dans le corps. Et on le voit bien. On voit des visages se transformer, on voit des corps se transformer, se déployer, être transfigurés. C'est le mot qu'on peut utiliser aussi.
Voilà. Alors,
Ignace va utiliser pour prier, pour entrer dans un texte biblique, tout le corps, c'est-à-dire le voir, entendre, réfléchir, ressentir. Il va même aller jusqu'à dans la contemplation de la nativité, par exemple, dire je me fais un petit pauvre, tout petit pauvre, pour entrer dans la scène. Et moi, je serai où dans cette scène-là ? Comment je pourrais servir Marie en train d'assister son enfant et Joseph là ? Comment est-ce que je pourrais les servir ? Comment je serais là ? Donc c'est vraiment entrer dans une corporéité même de l'évangile. À chaque scène, il demande où je suis dans cette scène. Avec Zachée dans l'arbre, au pied du sycomore avec Jésus, ou avec les disciples, ou au fin fond de la foule, où est-ce que je suis, moi ?
Alors, avant de proposer des exercices ou la méditation de texte, vous invitez à déposer ses soucis. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie, tout à l'heure on parlait de pleine conscience, je pense que c'est heureux d'abord de prendre le temps d'être là. D'être là pour entendre, sentir. Alors bien sûr là on est dans la nature. Après si on se met à prier, c'est dans prier avec la nature. Peut-être après prier avec un texte biblique qui nous met dans un cadre précis. Voilà, être là, déjà en paix de soi à soi, en paix avec les autres.
Justement, quand on est là, en général, c'est d'abord les soucis qui nous reviennent en tête. C'est toutes les choses qu'on a à faire. C'est la to-do list,
comme on dit. C'est peut-être aussi les déposer à Dieu dans la prière. Ces soucis-là nous encombrent-ils complètement ? Ou y a-t-il encore en nous un tout petit espace où Dieu peut s'infiltrer par son esprit ? Et c'est cet espace-là qu'il faut ouvrir.
Alors, les exercices dans la nature, je ne sais pas où sont les auditeurs, peut-être que certains ont leurs écouteurs, donc ils peuvent peut-être faire même l'exercice en même temps. Vous invitez donc à prendre un bain de nature et donc à utiliser nos cinq sens. Alors, allez-y, Bénédicte, prenez-nous par la main. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a déposé nos soucis, on vous fait à peu près confiance.
Où les personnes se trouvent, mais ça peut être possible aussi par le jeu de la mémoire. Dans un fauteuil, dans son salon, on peut aussi se souvenir. On a une mémoire dans notre corps et dans notre esprit. Voilà. Se souvenir de lieux où on était, sur la plage, en montagne, en train de marcher dans un lieu précis. Se souvenir d'une odeur de chèvrefeuille, de lys,
une Madeleine de Proust de la nature. Alors,
voilà, c'est aussi possible dans un fauteuil de se souvenir de lieux qui ont été marquants dans notre histoire. On en a tous des lieux qui nous ont touchés. Et qui peuvent revenir à notre mémoire et être un lieu bienfaisant. Voilà. Sinon, si vous avez la chance d'avoir un jardin, ben, allez dans votre jardin et commencez par vous poser dans un lieu où vous pourrez rester un peu, sans avoir froid, et respirer. Prenez conscience de votre présence et respirez en vous tenant devant Dieu, tout simplement. Le souffle, c'est quand même ce qu'on a reçu en premier. Et c'est par le souffle que nous partirons aussi. Donc le souffle, c'est premier. Et c'est même le texte qui démarre la Genèse, c'est le souffle aussi. Donc l'importance du souffle pour rentrer en prière, rentrer en relation. Donc déjà, là, se calmer par ça, par la respiration, en prenant tout son temps, de respirer longuement, de déployer toute sa cage thoracique, et de sentir cette inspiration, cette expiration, où je reçois et je rends. Je reçois et je rends comme le flux de la mer.
Ce qui est d'ailleurs le fond du mouvement de l'encyclique Laudato Si.
Oui.
Voilà, accueillir la création comme un don
et
se redonner. Alors, regarder, écouter, sentir, toucher.
Si j'ai la chance d'être dans un jardin, eh bien, je peux laisser poser mon regard sur ce que je vois. La terre, les arbres, les fleurs, les insectes s'il y en a, les oiseaux s'il y en a. Voilà, regarder tout simplement, être là pour regarder, observer. Ce matin peut-être un peu des araignées, des gouttelettes sur des toiles d'araignées. Voilà, des choses comme ça, tout simplement. Mais prendre le temps d'être... De s'arrêter sur chaque chose, de s'émerveiller sur chaque chose, d'en voir toute la beauté, toute la finesse aussi, certaines fleurs.
Pas de photo si on voit un écureuil, là, c'est...
Hein? Voilà, un écureuil, ça peut être possible, voilà.
Donc on comprend, donc, hein, il faut avoir un moment de présence profond,
ouais.
Être attentif.
Dégager toute culpabilité d'être là aussi gratuitement que cela.
Pour ceux qui auraient un peu des réticences avec cette manière de faire, Bénédicte Lamoureux, par exemple ceux qui ont des réserves sur la méditation pleine conscience, c'est quoi la différence entre ce qu'on est en train de faire et un temps de méditation de pleine conscience ?
Alors pleine conscience, je dirais, c'est de soi à soi. Et être présent en regardant avec tous ses sens, on le fait devant Dieu. C'est pour moi l'occasion de louer. C'est un émerveillement devant la nature. Et je sais que je reçois, Jérôme l'a dit tout à l'heure, et vous aussi d'ailleurs, et c'est dans l'encyclique, toute cette nature vient de Dieu, c'est un don de Dieu. Donc voilà, je le fais gratuitement, mais je le fais parce que je me tiens devant Dieu. Je suis un être vivant parmi tous ces végétaux que je suis en train de contempler ou ces animaux, un parmi d'autres. Et dans l'encyclique, c'est très clair. L'homme n'est qu'un élément parmi d'autres. Et la créature a autant de poids que l'homme. Parce qu'on a pu développer trop fortement la place de l'homme.
Alors après, donc, ces exercices-là, on va dire, on a entrevu à chacun de
donc après, on regarde. Après avoir regardé, on fait la même chose avec l'écoute. Mais évidemment, quand on le vit avec son propre corps, c'est simultané souvent. Mais c'est intéressant de s'arrêter un tout petit peu sur chacun des sens qu'on a pour les développer, en fait.
Vous faites aussi proposer donc un exercice aussi pour ces fameux sens internes, hein, équilibre par exemple, oui. Se tenir debout sur les deux pieds, puis après sur un seul pied. Oui. On peut marcher, rester debout à l'arrêt, marcher lentement. Oui. Bref, autant d'exercices donc à faire. On peut aussi donc prendre un texte et se plonger dedans et donc faire une lectio divina. Alors là, en l'occurrence. Ce qui est proposé, donc, c'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 1, 35 à 39, ou alors le psaume 103, 104, sur la splendeur de la création. Est-ce que vous pouvez en choisir un et puis peut-être nous laisser entrevoir la manière dont il faut s'y prendre pour lire et méditer ce texte?
Oui, si on prenait saint Jean, on dirait, il y a un mot qui est central, c'est demeurer. Demeurer avec Jésus. Les deux disciples, au départ, ils suivent Jean-Baptiste. Jean-Baptiste reconnaît l'agneau de Dieu et pointe son doigt sur Jésus. Les deux disciples se mettent non plus à suivre Jean-Baptiste, mais à suivre Jésus. Et Jésus leur dit « Que cherchez-vous ?» Ils répondent « Maître, où demeures-tu ?» Et il dit « Venez et voyez. » Et ils demeurèrent chez lui ce jour-là, à cette heure-là.
Donc c'est-à-dire, en fait, il faut être attentif, en l'occurrence, à ce mot, par exemple.
Voilà, demeurer.
Et le laisser résonner jusqu'à ce que...
Laisser résonner. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer avec Jésus à 16h de l'après-midi, chez lui?
Voilà, pas passer dessus trop vite.
Pas passer dessus trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces trois hommes? Quel jeu de regard entre eux? Quels échanges? Il les a emmenés dans sa cuisine, il leur a offert un pot. Ils ont discuté de quoi? Restons là. Demeurer, ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui, demeurer chez moi ou chez lui avec Jésus? Voilà, parce que c'est aussi l'enjeu de cette retraite, c'est de demeurer davantage avec le Christ, avec Dieu, pour vivre cette conversion écologique. C'est d'abord retrouver ce cœur à cœur là, pour après je vais regarder le psaume 103 et je vais voir toute cette création autour de moi avec lui.
Citer l'un ou l'autre passage, peut-être.
Alors, le psaume 103, vous le trouverez au psaume 104-103 dans vos Bibles. Parce que, voilà, il y a différentes... La version liturgique, c'est 103. La version dans la Bible, c'est 104. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alors, dans la Bible, on va dire Yahvé. Mais la traduction liturgique dit le Seigneur. Yahvé, mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat. Drapé de lumière comme d'un manteau. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes, faisant des nuées ton char. Tu t'avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messager, pour serviteur un feu de flamme. Alors les traductions liturgiques sont parfois plus fluides, plus contemporaines pour nous, mais la plupart des personnes, vous allez trouver ça dans vos Bibles, si vous avez la chance d'avoir une Bible. Donc, vous allez retrouver tout un vocabulaire poétique, comme souvent les psaumes les offrent, qui regarde chaque élément de la nature avec un regard de bienveillance et gratuit.
Jérôme Gué, quel est le but, dans le fond, de ce premier jour, s'émerveiller de la nature? On comprend, hein, on va dire, mais si on... pas seulement, si on devait comprendre pas seulement intellectuellement, comment est-ce qu'on doit être à la fin de cette journée pour l'avoir traversée, on va dire, justement?
On doit être déjà dans une attitude d'émerveillement. Voilà, c'est ayant pris le temps d'observer, au bout d'un moment, je me laisse atteindre par toute cette nature, et finalement je ne vais plus dire cette nature à ce moment-là, je vais dire cette création, parce que je commence à être en mesure de pouvoir nommer celui qui est à l'origine. Et du coup, je commence à rentrer dans l'extraordinaire de la présence de Dieu dans notre vie, dans notre monde. Voilà. Je me suis arrêté et je suis arrivé à ça.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va retrouver François Dromard qui lui, peut-être ça fait partie un peu de son quotidien, en tout cas de son chemin de vie. En tout cas, c'est intéressant de faire l'exercice parce que à la radio, on va dire, les médias c'est souvent un peu, on va dire, le paroxysme des réalités contemporaines. À la radio, il faut parler vite, il faut que ça pulse comme on dit, et puis là on prend son temps et ça fait tout bizarre, mais c'est pas plus mal.
Présence à Millau 106.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'appel de Laudato Si, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, première émission donc d'une série annuelle autour du plateau. Jérôme Gué, jésuite, co-auteur de Parcours pour une conversion écologique par aux éditions Vie chrétienne et fidélité, Bénédicte Lamoureux, elle-même religieuse, Xavier et François Dromard, qui est donc paysan et éleveur en Haute-Garonne. Alors, vous êtes l'émerveillé du jour, François Dromard, et vous avez accepté, et je le dis et je vous en remercie, de venir nous parler, parce que ça va un peu mieux aujourd'hui, on peut être émerveillé sans passer moins pour le ravi de la crèche, mais vous, ça fait longtemps que vous avez pris ce chemin, et on va découvrir que ça n'a pas été toujours sans difficulté. Alors, vous vouliez commencer peut-être, comme je vous le suggérais, par l'avant. Vous n'êtes pas issu du monde paysan, même si vous l'êtes devenu. Racontez-nous un peu de quelle culture vous venez, quel était votre rapport à la création avant de faire votre bascule.
Alors effectivement, je ne suis pas d'origine agricole, je vivais dans une ville moyenne Et en fait, c'est par le biais d'un service civique que j'ai effectué en Vallée d'Aspe, dans la montagne.
C'est donc chez nous, hein, c'est les Pyrénées.
C'est dans les Pyrénées, et c'était donc pour aider des agriculteurs de montagne. Et j'ai été vraiment touché par la beauté de ce lieu, et puis par aussi l'amour de ces paysans pour leur montagne, pour leur tradition, pour leur terre et pour leur travail.
Vous avez passé 2 ans là-bas, c'est ça?
J'ai passé 2 ans là-bas. Et vraiment, lorsque j'ai quitté cette région, je me suis dit vraiment, je veux vivre un petit peu dans un lieu beau. Et essayer de vivre près de la nature, de la nature.
Donc ce qui vous avait frappé, c'était autant la beauté du lieu que le rapport que les personnes qui vivaient avec la création.
Oui, tout à fait.
Pour nous qui n'avons peut-être pas fait de service civique ou qui ne sommes pas familiers, qu'est-ce qu'il y avait de si particulier en fait dans la relation qu'ils avaient à la création?
Un rapport très très simple. Un rapport très simple, le travail qui est lié à la nature, à la création, et donc toute leur vie est centrée sur la création, sur la terre, et donc avec le souci justement de la préserver.
Alors vous y êtes mis, donc vous destinez donc à être éducateur spécialisé, et puis vous avez finalement donc fait un autre choix. Expliquez-nous quelle est l'activité professionnelle que vous avez choisie et en quoi c'est une activité d'émerveillé.
Alors avec mon épouse, nous nous sommes installés comme agriculteurs avec un petit troupeau de chèvres, et donc nous avons fait le choix dès le début de...
Vous pouvez quand même dire que c'était l'aventure, moi qui vous connais un petit peu.
Alors c'était une véritable aventure
on
partait de zéro.
Pas construite, vous étiez dans une caravane.
On a acheté une exploitation sans aucun bâtiment, donc on a vraiment, on a démarré tout à zéro. Donc on a trouvé un lieu qui était beau. Et c'est ce qui nous a aussi beaucoup touché. Et on a essayé justement de préserver, parce que ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est de voir combien les exploitations agricoles d'aujourd'hui sont souvent avec des bâtiments qui sont fonctionnels, mais qui sont laids. On défigure plus qu'on embellit l'environnement. Et donc,
Là, on est en train de perdre quelques auditeurs, mais c'est pas grave.
On a essayé vraiment, avec nos propres moyens, de préserver le beau, voilà, d'être dans la beauté.
Donc, vous avez un élevage de chèvres.
Un élevage de chèvres.
Vous faites du fromage.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, vous aviez aussi une activité de ferme découverte.
Voilà. Nous accueillons aussi des familles pour les goûter à la ferme, et puis des scolaires. Et là, donc, je reviens aussi un peu au niveau des sens. On reçoit une grosse majorité de petits. Et je les invite toujours...
Petit, c'est quoi? Maternelle, primaire.
Maternelle, voilà. Et je les invite toujours à visiter la ferme en essayant de le faire avec les sens.
Alors, par exemple, ça donne quoi?
Mais par exemple, d'abord, je les regroupe et je les invite à observer. Les enfants, surtout ceux d'aujourd'hui, sont un peu dans le zapping. Ils veulent voir tout de suite et ils ont du mal à se concentrer. Donc, j'essaye vraiment de les inviter à prendre le temps pour regarder, pour observer, pour admirer.
Pour sentir aussi, peut-être.
Alors après, aussi, au niveau, par exemple, de l'écoute, je les invite à fermer les yeux et à écouter. Voilà. Et donc, il y a souvent comme ça des moments privilégiés où on n'entend rien et les enfants sont là, réceptifs. Donc, il y a les oiseaux, la vache, l'âne, les poules qui font quelques bruits, et ils arrivent après à nommer.
Et vous diriez qu'en fait, vous les aidez à faire quelque part un début d'expérience spirituelle. Est-ce que c'est au long des années, vous avez parfois eu cette impression?
Alors,
et si oui, pourquoi?
Oui, parce que du moins à être incarné, comme on le disait, à être dans leur corps. Par exemple, au niveau du toucher, on a des enfants qui... Alors, il y a des réactions très différentes. Il y a des enfants qui, tout de suite, vont se mettre à toucher les petits chevreaux quand ils sont tout petits. Je leur mets dans les bras et ils caressent. Et il y a d'autres enfants qui ont un temps de recul... d'abord une appréhension, parce que parfois aussi c'est la première fois qu'ils voient des animaux aussi près, oui, en chair et en os. Et donc il y a un temps d'adaptation avant qu'ils puissent s'approcher, qu'ils puissent toucher. Et là souvent j'ai des réactions d'accompagnateurs qui me disent « Ah mais cet enfant-là, je suis vraiment étonné parce qu'il réagit complètement différemment lorsqu'il est à l'école. » Et donc, il y a des réactions très, très fortes. Au niveau de l'odeur, quand on rentre, oui, l'odeur de la chèvrerie ou de la fromagerie, c'est quand même... Les enfants ont toujours tout de suite le réflexe de se boucher le nez.
Mais
voilà, sentez.
Est-ce que c'est une expérience spirituelle, vous diriez? Est-ce que vous avez l'impression que ça les ouvre à une forme d'intériorité?
Alors, je ne sais pas, mais...
Vous observez qu'ils sont plus calmes, déjà, c'est ça?
Ça les invite à être dans leur corps et il y a vraiment des sourires, des réactions fortes des enfants.
Alors vous vivez donc dans un beau lieu, dans cette exploitation, depuis, vous avez bien, ça fait quand même quelques années, donc maintenant il y a des beaux bâtiments. Cet émerveillement, néanmoins, vous me disiez, en fait, c'est toujours quelque chose à reconquérir, c'est-à-dire même si c'est un beau lieu, même si vous, c'est votre quotidien que d'être en prise avec un réel, avec la création. Pour autant, l'émerveillement, c'est un exercice, vous avez l'air de dire.
Oui, parce que c'est une recherche d'équilibre. Enfin, la vie de paysan, c'est aussi un métier. Et donc, il y a un but économique aussi. Et donc, il y a toujours des questions à se poser, un équilibre à rechercher, au niveau environnemental, des choix à faire et qui peuvent être contradictoires avec l'économie.
Alors, comment vous vous y prenez pour rester émerveillé, vous? Vous avez un petit truc comme Bénédicte, elle va marcher. Vous, c'est quoi? Vous prenez le temps de caresser vos chèvres, vous...
Alors,
les moments d'émerveillement, sinon réguliers.
Alors, je pense que ce qui me paraît important, c'est d'être vraiment dans l'action de grâce, dans la louange. Il y a un texte biblique qui me touche toujours, c'est celui dans Exode au chapitre 7, je crois, de Moïse et du peuple hébreu lorsqu'ils arrivent dans le désert. Ils sont confrontés à une bataille. Ce désert, il est habité, il y a des Amalécites. Et donc Moïse va dire à Josué, va dans la plaine et moi je vais rester sur la montagne. Je vais lever les bras et je vais louer. Et en fait, cette bataille va se gagner par la louange. Et ce que je trouve aussi très, très beau, c'est que donc il va lever les mains et puis la fatigue aidant, lorsque les mains baissent, les ennemis prennent le dessus. Et là, Our et Aaron viennent l'assister et vont soulager un petit peu les bras de Moïse jusqu'à la fin du jour. Et donc, toute la journée comme ça, c'est la prière d'action de grâce qui va donner la victoire. Et ce qui montre aussi cette dimension de vie fraternelle. C'est-à-dire que ce que j'ai à vivre, je ne peux pas le vivre tout seul. J'ai besoin de mes compagnons pour soutenir mes bras. Et donc, quelle que soit notre vie, je crois que nous avons besoin des frères, nous avons besoin d'autres
pour continuer à dire « Loué sois-tu, Seigneur, laudat aussi », puisque donc c'est le titre de l'encyclique, mais à vous entendre, c'est voilà, cet émerveillement devant la création, qui est donc cette aventure à vivre entre frères. Et ben, merci pour cette première mission. Premier jour, donc, s'émerveiller, je vais retrouver le titre quand même exact, s'émerveiller de la nature. Rendez-vous le mois prochain, se recevoir de Dieu avec toutes les créatures. On parlera en tout du fameux Cantique des créatures de Saint François d'Assise. Un grand merci à vous. Je rappelle le titre du livre qu'on va parcourir, que l'on peut donc acheter. on peut vivre seul ce parcours, même s'il est mieux de le vivre en groupe, ou retrouver des retraites qui sont déjà proposées par la grande famille ignatienne sur www.ndweb.org, ndweb.org, Notre-Dame du Web, sinon vous tapez ça sur Internet. Ce livre, c'est « Parcours spirituel pour une conversion écologique », L'appel de Laudato Si, paru aux éditions Vie chrétienne et Fidélité. Merci beaucoup. Merci. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.